RCH.
Il est 6h17, réveillez-vous. Alors, si jamais il pleut, je vous le dis, comme ça c'est fait.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Il nous dit les news comme ça, ce sera plus à faire non plus, c'est Yves Terrani. Bonjour Yves.
Mais bonjour, Beauvau prend à son tour des mesures pour éviter une pénurie d'électricité et de gaz cet hiver. Sa stratégie est âgée sur des réductions du chauffage de ses bâtiments, des comportements économes des habitants ou encore d'une limitation de l'éclairage publicitaire et commercial. Le chauffage sera par exemple abaissé à 20 degrés dans les bâtiments de l'État. Le plan vise également à garantir les prestations essentielles soient délivrées à la population en cas de pénurie ou de panne. Les explications de Vassilis Venizelos, conseiller d'État vaudois chargé de l'environnement.
Nous avons annoncé un certain nombre de mesures, notamment la nomination de l'état-major cantonal de conduite. Nous saisissons, nous confions la mission à l'état-major cantonal de conduite, le pilotage des travaux préparatoires avec le directeur en charge de l'énergie qui viendra appuyer l'état-major cantonal de conduite. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Évidemment, en matière d'économie d'énergie, il y a eu des appels de la part du Conseil fédéral à la population pour économiser l'énergie. Au niveau du canton, nous devons être exemplaires, évidemment. Donc, nous avons annoncé aujourd'hui différentes mesures qui s'inspirent d'autres mesures prises par les cantons. Donc, ces mesures ont été coordonnées avec les autres cantons qui permettra d'être exemplaires dans ces économies d'énergie.
Tout autre chose, le Valais ne pourra pas abattre des loups de la meute du Val d'Airain. L'Office fédéral de l'environnement a estimé que les mesures de protection des troupeaux sont insuffisantes. Le canton va déposer recours auprès du tribunal fédéral administratif. La demande visait 3 jeunes loups qui seraient responsables de la mort de 33 moutons, et ce malgré la présence permanente du berger avec 2 chiens ainsi qu'un filet de pâture électrifié pour le parc de nuit. En revanche, le canton des Grisons tuera 2 jeunes loups de la meute de Mezola. L'OFEV a approuvé cette demande. La station de ski des Giettes sur les Hauts-de-Montée pourrait bien ne pas faire fonctionner ses installations pour un second hiver consécutif. La faute à une situation financière très compliquée. Les aides perçues de la part des communes et entreprises à hauteur de 40 000 francs ne suffisent pas en effet à couvrir tous les frais qui se montent à 80 000 francs pour chaque saison hivernale. Alain Bosco, le propriétaire du site, lance ainsi un appel aux entreprises, communes et collectivités. Objectif, trouver le montant nécessaire pour équilibrer le bilan de Téléjiette et permettre ainsi aux enfants et familles de continuer à skier gratuitement. Alain Bosco.
La dernière année qu'on a ouvert, j'ai fait un petit sondage. On était sur une moyenne de 200 personnes par week-end, ce qui n'est pas rien. Moi, j'ai aucune prétention avec ces 2 petits téléskis, on ne va pas faire de l'ombre aux grandes stations. Mais sur ces 200 gamins, familles qui viennent commencer à prendre goût au ski, c'est tous des gens qui vont prendre un abonnement à Morgin ou au Crozet l'année suivante. Donc, je trouve que c'est quand même un tremplin qui est intéressant. Et à côté de ça, on fait des activités pour les enfants handicapés. On a mis notre station à disposition pour l'entraînement des chiens d'avalanche. Enfin, on fait pas mal de choses annexes. L'auberge de Chindon joue le jeu aussi. Ils essayent d'ouvrir pour tout le monde. Mais c'est clair que si nous, on n'est pas ouvert le samedi dimanche, ils pourront pas ouvrir. C'est au-delà juste des pistes de ski. Mine de rien, c'est quand même le cœur de cette petite station qui est quand même attachante et que ça serait dommage que ça s'arrête.
Alain Bosco, interrogé par Thierry Nicolet. Si Téléjiette venait à ne pas fonctionner cet hiver, cela signifierait probablement la fin de l'offre actuelle. La station pourrait n'ouvrir que de manière ponctuelle et privée pour des événements ou des entreprises. La fin du chantier de réaménagement de la place de l'Oriental à Vevey se dessine. Pour rappel, les travaux avaient débuté en janvier dernier dans le quartier de l'Est Veveysan. Après près de 9 mois de chantier, la nouvelle place sera bientôt inaugurée. Comme l'avaient souhaité les riverains dans le cadre d'une démarche participative, le lieu sera notamment plus vert et il favorisera la mobilité douce. Les précisions d'Antoine Dormont, municipal du service urbanisme et mobilité de Vevey, au micro de Julie Guay.
Il y a l'invisible qui concerne finalement toutes les infrastructures souterraines, également aussi la réfection du revêtement routier, la création d'un arrêt de bus adapté aux personnes à mobilité réduite, la plantation d'arbres, le réaménagement justement d'un espace piéton beaucoup plus généreux qu'avant qui se déploie au rez-de-chaussée devant les commerces, et puis aussi la création de places de roues, l'aménagement aussi de conteneurs enterrés pour les déchets, et puis finalement c'est vrai que ça va aussi tranquilliser le quartier, assurer aussi la sécurité des différents modes de déplacement dits de mobilité douce.
À noter que, propriété de la ville de Vevey, le théâtre de l'Oriental profitera lui aussi de la nouvelle dynamique du quartier. Des synergies sont déjà existantes avec le bar Seine voisin, le bout du monde. Les syndicats restent inquiets pour les plus de 1400 emplois que Novartis entend supprimer en Suisse. Unia et Sina demandent ainsi une vraie procédure de consultation. Pour le groupe pharmaceutique, le processus a été lancé comme prévu. Depuis l'annonce d'un nouveau licenciement collectif en juin, le groupe n'a pas fait grand-chose pour répondre aux préoccupations des employés, ont écrit hier les deux syndicats. Ils reprochent à Novartis d'avoir retardé une rencontre avec les syndicats à mi-septembre, puis d'avoir mis fin aux discussions sans résultat. Comme tous les pays au monde, selon une décision du G20 et de l'OCDE, la Suisse devra fixer un taux d'imposition d'au moins 15% au bénéfice des multinationales qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a environ 2000 dans notre pays. Le Conseil des États est d'accord avec cette option, déjà acceptée par le Conseil fédéral. L'enjeu désormais, c'est de savoir qui va encaisser la manne supplémentaire qui pourrait atteindre 1 à 2,5 milliards. Une majorité de sénateurs a opté pour 75% au canton de domicile des entreprises et 25% pour la Confédération. Cela risque d'accroître les disparités entre cantons riches et cantons moins nantis. C'est notamment la crainte du conseiller aux États socialistes genevois, Carlos Omaruga.
Cette discussion aujourd'hui ne concerne pas seulement une approche fiscale. C'est effectivement une question de cohésion nationale. Ce que je constate, c'est qu'un canton comme le canton de Zoug va avoir une augmentation de la substance fiscale énorme. Il ne faut pas non plus qu'il y ait, avec ce projet de loi, une augmentation de l'injustice fiscale. Soyons un peu imaginatifs et trouvons surtout des solutions qui permettent d'assurer la cohésion nationale et d'éviter une péjoration de l'injustice fiscale dans notre pays.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Une majorité de 30 contre 8 s'en est tenue à la répartition 75-25. 1%, la nouvelle imposition des grandes entreprises nécessite une adaptation de la Constitution fédérale et donc un vote populaire programmé en juin de l'année prochaine. À l'étranger, des manifestations ont eu lieu hier un peu partout en France pour défendre le droit à l'avortement à l'heure où il est remis en question dans plusieurs pays, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. Par ailleurs, en Hongrie, des milliers de personnes ont manifesté hier soir à Budapest contre un récent décret obligeant les femmes enceintes à être confrontées aux fonctions vitales du fœtus avant d'avorter. Le vaccin contre la variole du singe est très efficace et ce dès 2 semaines après la première dose. C'est ce que montrent de premières données en conditions réelles communiquées hier par les autorités sanitaires américaines. Enfin du sport pour terminer, du football. Ce prochain dimanche, pour la première fois dans l'histoire de la Serie A italienne, un match sera dirigé par une femme. L'arbitre Maria Sole Ferrieri Caputi, âgée de 32 ans, sifflera en effet le match entre Sassuolo et Salernitana. En Suisse, une telle première remonte déjà à quelques années. Le 30 mai 1999, Nicole Petigna était en effet la première femme à siffler dans la plus haute ligue masculine. La jurassienne qui s'est retirée en 2008 à l'âge de 42 ans a dirigé 102 parties au total en Ligue Nationale A et en Super League. Le 14 août 2003, elle a été la première femme à siffler un match de Coupe UEFA chez les hommes. Chez les femmes, elle a également dirigé 2 grandes finales lors de la Coupe du Monde 1999 et de l'Euro 2001.
Pas mal, joli palmarès.
Ouais, joli palmarès et on le voit, hein, 23 ans d'avance.
Ah ouais,
sur l'Italie, ouais, pour finalement, une fois. Pour une fois.